Vous écoutez
RMC.
RMC 8h47, une cinquième canicule s'installe sur la France. 43 départements en vigilance orange ce mardi, plus de 35 degrés sur les deux tiers du pays demain. Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré, notamment chez nous. Une sécheresse qui touche désormais 95% du territoire. L'été 2026, nouvel été hors norme. Bonjour François Gémen.
Bonjour, j'ai envie de vous dire nouvel été dans la norme en réalité. On
parle toujours d'été. L'exception devient la norme.
L'exception devient la norme.
Vous êtes professeur à HEC, membre du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Également auteur de Parler du climat sans plomber l'atmosphère, paru aux éditions Odile Jacob. François Gémen, justement, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de parler de ce qui nous arrive là? Sans plomber l'atmosphère, peut-on encore espérer quelque chose?
Bien sûr, je pense que c'est très important précisément de parler des solutions. Et le problème, c'est qu'on parle toujours de ces sujets un peu quand on est au milieu de la crise, quand on est en plein milieu d'une sécheresse, d'incendie, de canicule. Si on veut effectivement pouvoir en parler sans plomber l'atmosphère, il faut aussi en parler en dehors des périodes de stress et de crise. C'est le moment où on va déployer des solutions. Je parlais dans le couloir avant de rentrer sur le studio avec quelqu'un qui est responsable d'une société qui implante des caméras de surveillance des incendies. Il me dit, le problème, c'est que tout le monde nous appelle l'été après les incendies. En réalité, il faudrait qu'on ait les appels l'hiver pour que les gens se préparent à la prochaine saison des incendies. Et c'est un peu le problème. Je passe tout mon été dans vos studios et je viens toujours avec plaisir, évidemment. Mais l'enjeu, c'est aussi d'en parler en dehors de ces périodes de crise.
Est-ce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est vague de canicule, cinquième vague de canicule depuis fin mai. Cette sécheresse qui est d'ores et déjà historique, est-ce que ça c'est notre nouveau climat?
Oui, et c'est un nouveau climat d'abord auquel nous ne sommes pas préparés. On voit bien à l'évidence les enjeux d'adaptation. Et c'est un climat que nous avons créé aussi par notre dépendance aux énergies fossiles. Et en soi, c'est une bonne nouvelle, puisque comme nous sommes intégralement responsables de ce nouveau climat, ça veut dire que nous avons aussi les moyens de le limiter, nous avons les moyens d'agir. Et ça, je crois que c'est très important. On a parfois un peu une attitude un peu fataliste en se disant que faire face aux canicules, face aux incendies, face aux sécheresses. Nous avons les moyens d'agir à la fois pour limiter la hausse des températures et pour nous adapter à ce nouveau climat qu'on ne connaît pas encore vraiment.
Vous connaissez la rengaine, et c'est pas une critique quand je dis ça, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent sur RMC, RMC Story, puis je l'entends autour de moi, on l'entend tous, nous disent « oui mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous nous dites qu'il faut qu'on change les choses, mais qu'est-ce que je peux faire ?
Alors je crois que souvent le discours a trop porté sur les actions individuelles et on a fait porter aux gens la responsabilité de l'action face au changement climatique. C'est d'abord, il faut le dire, une responsabilité qui incombe au pouvoir public, qui incombe aux entreprises. Alors bien entendu, il y a des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien et on a tous une responsabilité. Mais je crois que parfois ce discours qui a fait peser la responsabilité de l'action sur les épaules des gens...
Y compris de la part de nos gouvernants.
Hein. Y compris de la part de nos gouvernants. C'était parfois une façon pour les gouvernements de se défausser de leur responsabilité sur les épaules des citoyens.
L'Europe est le continent où l'on meurt le plus des canicules. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est le continent où la température se réchauffe le plus rapidement. Alors, il y a des raisons de courant atmosphérique, des raisons de lutte contre la pollution atmosphérique qui expliquent ça. Donc, ça se réchauffe plus rapidement en Europe qu'ailleurs. Et surtout, c'est un continent qui n'était pas du tout préparé. D'autres pays, notamment dans les pays du Sud, ont pris conscience beaucoup plus tôt de leur exposition aux fortes chaleurs et aux risques. Et donc, c'est pour ça qu'en matière d'adaptation, on a parfois aussi beaucoup de leçons à aller chercher dans les pays du Sud, parce qu'en Europe, on est très très mal préparé. Et j'irai même plus loin, Paris est la ville d'Europe où on meurt le plus des canicules, simplement parce que les bâtiments n'ont pas été conçus pour ça. On le voit bien aujourd'hui.
Vous dites qu'on pourrait gratter les 50 degrés d'ici 20 ans. Demain, les deux tiers du pays seront à plus de 35 degrés, il y aura des pointes à 40. D'ici 20 ans, 50 degrés, est-ce qu'on pourra le supporter? Comment on peut s'y préparer?
Alors, il faut pas faire peur aux gens. Très clairement, on n'aura pas 50 degrés pendant tout l'été. Par contre, il n'est pas exclu qu'à certains endroits du territoire, pendant quelques jours, on aille toucher la barre des 50 degrés. Et si je le dis, c'est pas du tout pour affoler les gens, c'est simplement pour qu'on se prépare. Nous avons quelques années devant nous avant que ça n'arrive. Il faut être conscient que c'est une possibilité et que plus on va attendre avant de se préparer, évidemment, plus ça va être difficile et plus ça va coûter de l'argent.
Vous savez comment les gens s'y préparent à l'heure actuelle. Là, encore une fois, c'est la vie réelle. Moi, je le vois autour de moi, je l'entends autour de moi. Beaucoup nous disent... J'habite dans le Nord, hein.
Bien sûr.
Beaucoup me disent autour de moi, bah, moi, ça y est, je vais faire installer la clim.
Bien sûr. Et je comprends parfaitement.
Mais est-ce que c'est bien ou pas bien?
Alors, moi, d'abord, j'ai pas de jugement à porter. Les gens vont s'adapter comme ils le peuvent. Simplement, je crois qu'on a fait longtemps culpabiliser les gens en disant la clim a des effets catastrophiques pour l'environnement. C'est vrai ailleurs dans le monde. C'est pas le cas en France où l'électricité est très largement décarbonée. Et donc, le fait de consommer de l'électricité en plus en France, ça n'ajoute pas des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont associés à la clim, notamment les rejets de chaleur humaine, mais ce sont des inconvénients locaux qui n'ont pas d'impact sur le climat global. Le vrai enjeu, à mon sens, sur la clim, c'est de savoir quel type de clim on va installer. Et je comprends la réaction des gens qui se disent on va acheter un petit climatiseur mobile à quelques centaines d'euros. Le problème, c'est que souvent, c'est pas les clims les plus efficaces qui vont avoir effectivement que les gens vont acheter en premier. L'enjeu, je crois, ça serait de développer une vraie politique publique de climatisation qui permette l'installation de climatiseurs réversibles qui vont non seulement rafraîchir la température l'été, mais qui vont également permettre de se chauffer l'hiver et qui vont permettre aussi de décarboner effectivement son chauffage. Et avec des climatiseurs réversibles comme des pompes à chaleur, en réalité, vous avez un bénéfice pour le climat plutôt qu'un coût pour le climat.
Et 95% du territoire est touché par la sécheresse cet été. Est-ce qu'il va falloir changer nos comportements dans l'usage de l'eau?
Il va falloir changer beaucoup de choses, notamment pour l'agriculture qui est la première consommatrice d'eau. On va falloir aller vers des cultures qui soient davantage résistantes à la chaleur, vers des cultures qui soient moins gourmandes en eau également. Ça va être aussi une question d'arbitrage.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, le maïs, aujourd'hui, c'est une culture qui est très, très gourmande en eau. On consomme très peu de maïs en France, essentiellement destiné à l'alimentation du bétail et à l'exportation. C'est potentiellement une culture qui va devoir évoluer. Et puis, il faut le dire aussi, il va falloir davantage de péréquation entre les différents territoires. Vous avez des territoires, notamment dans le Nord, où il ne va pas y avoir beaucoup de problèmes d'eau. Vous allez avoir des territoires qui vont être en situation de sécheresse chronique. Les Romains avaient des aqueducs. Il va falloir remettre en place, je pense, un système d'aqueducs ou de pipelines pour transférer de l'eau de certaines régions du territoire à d'autres. C'est aussi une question de solidarité nationale.
80% des Français se disent inquiets. Et l'exécutif, le gouvernement, publie des conseils anti-éco-anxiété sur Instagram, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne réponse?
Alors, si c'est la seule réponse, clairement, ça ne va pas suffire. Je comprends parfaitement qu'on soit inquiet, je dirais même que c'est une réaction relativement normale. Le problème, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. On a parfois l'impression que c'est l'impréparation du gouvernement qui va créer cette éco-anxiété et que donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On peut pas
juste... rien, mais n'ayez pas peur.
On peut pas juste donner des conseils aux gens. La question de l'adaptation, c'est pas juste des conseils de bon sens ou contre l'éco-anxiété. C'est une vraie stratégie d'investissement public.
Merci beaucoup, François Gémen, d'avoir été avec nous, professeur à HEC, membre du GIEC et auteur de Parler du climat sans plomber l'atmosphère. Je pense que vous avez essayé de le faire ce matin sur RMC Story.
J'espère.
C'est paru aux éditions Odile Jacob.